Ce journal vous est présenté par Jacqueline Fardel.
Bonsoir. Les craintes de nouveaux attentats ont eu raison de la traditionnelle braderie de Lille, annulée pour raison de sécurité. Les grands perdants, ce sont les commerçants et les hôteliers, alors que l'événement attire plus de 2 millions de personnes début septembre. À Rio, ce sont 17 000 athlètes et plus de 200 délégations attendues. Les 31e Jeux Olympiques sur le point de s'ouvrir au Brésil. Les purges encore en Turquie et le président Erdogan qui fait le ménage aussi dans les rangs de son propre parti, l'AKP, précision de Nabila Ahmed. En Afrique du Sud, le suspense demeure sur les résultats à Johannesburg et Pretoria. Mais ailleurs, l'ANC, premier parti du pays, est en net recul. C'est la première fois depuis la fin de la dictature raciste de l'apartheid. Le paysage politique est bouleversé. Lisa Fabian nous appelle de Johannesburg. Martine Aubry n'a pas voulu prendre de risques. La maire de Lille a annoncé aujourd'hui l'annulation de la braderie de la ville la plus grande d'Europe. Près de 2,5 millions de personnes étaient attendues cette année, le premier week-end de septembre. Une annulation en raison de la menace terroriste. Même si les conditions de sécurité avaient été revues à la hausse depuis l'attentat de Nice, les autorités ont estimé que la sécurité maximale ne pouvait pas être garantie autour de ce rassemblement de quelques 10 000 exposants. Ce n'est pas la première fois que la braderie est annulée en quelques 900 siècles d'existence. Mais pour toute la région, c'est un gros coup dur économique. Les hôteliers sont les premiers touchés. Ils s'attendent à des pertes importantes. Élodie Vergelati.
La nouvelle de l'annulation n'a pas surpris Maya Afifi. Elle s'y attendait après l'attentat de Nice. Mais c'est un coup dur pour cette responsable de l'Urban Hotel.
On avait des doutes. Mais bon, là, ça s'est confirmé ce matin. On a malheureusement déjà reçu quelques annulations. Qu'on va traiter, bien sûr.
Une dizaine d'annulations en quelques heures et certainement d'autres qui vont suivre. L'hôtel affiché complet pour ce week-end de la braderie. Les répercussions financières risquent d'être considérables pour l'établissement.
On serait sur les deux nuitées à 80 chambres. Donc c'est quand même énorme. On compte beaucoup sur la braderie pour notre chiffre d'affaires du mois de septembre et de l'année. C'est vraiment la plus grosse date sur l'année. Donc ça sera vraiment un gros manque à gagner.
Pour la braderie, l'hôtel avait l'habitude de doubler le tarif de ses chambres, 190 euros la nuit pour deux personnes. Alors pour tenter d'attirer la clientèle, les gérants sont prêts à faire un gros effort sur les chambres à nouveau disponibles. Brader les prix, voilà une politique qui devrait inspirer bon nombre d'hôteliers.
Le reportage d'Élodie Vergelati de France Bleu Nord. Et ce soir, on apprend que le championnat d'Europe de cyclisme sur route de Nice, prévu en septembre, est annulé pour des raisons de sécurité. Et sur les projets d'attentats déjoués, un homme remis aujourd'hui à la justice française par les Pays-Bas. Cet homme de 32 ans avait été arrêté dans le pays fin mars. 44 kilos de munitions ont été retrouvés à son domicile à Rotterdam. Il est suspecté d'être le complice d'un autre Français déjà sous les verrous. Les deux hommes seraient partis en Syrie entre la fin 2014 et le début 2015. Et c'est aussi sous haute sécurité que va être donné dans 3 heures maintenant le coup d'envoi de l'événement sportif planétaire, les Jeux Olympiques au Brésil. Cérémonie d'ouverture prévue à 1h du matin, heure française, au stade Maracana de Rio de Janeiro. 3 milliards de téléspectateurs devraient la suivre à travers le monde. Et alors que tous les regards sont tournés vers Rio, la France, elle, pense déjà à Paris 2024. François Hollande présentait aujourd'hui le projet de la capitale pour l'accueil des Jeux dans 8 ans. Paris entend mettre 4 milliards d'euros sur la table. Mais en matière de coûts, les précédentes éditions ont plutôt fait dans la surenchère. 11 milliards à Londres en 2012, 31 milliards à Pékin en 2008 et à Rio cette année 10 milliards d'euros. Des budgets énormes, mais en général peu de retombées, analyse Vladimir Andreff. Il est économiste du sport à l'université Paris 1.
Toutes les études américaines ont conclu qu'en général, accueillir les JO, ça apporte zéro, ou à peu près zéro, c'est soit très légèrement positif, très légèrement négatif, donc, comme on dit en anglais, peanuts. Donc, si vous voulez, les Jeux Olympiques, quand ils ont un impact positif, ils ont un impact microéconomique. C'est toujours positif pour le CIO, lui, il y gagne de l'argent. C'est souvent positif pour les sponsors et les chaînes de télévision, ils y gagnent soit de l'argent, soit de l'exposition. Et puis, c'est parfois très négatif pour des gens qui payent sans s'y attendre, qu'on appelle les contribuables. Par exemple, à Montréal, les contribuables ont payé pendant 30 ans un déficit d'$1 milliard des Jeux de Montréal. Les Jeux Olympiques, c'est pas une entreprise économique. Ça n'est une entreprise économique fondamentalement que pour une institution qui est un monopole mondial qui s'appelle le CIO, le Comité International Olympique. Lui, il y gagne quelques milliards d'euros à chaque fois qu'il organise des Jeux. Pour le reste, ça ne devrait pas être argumenter de façon économique. D'ailleurs, jusqu'en 1976, on n'entendait pas d'arguments pour ou contre les Jeux Olympiques en termes économiques. On disait il faut organiser les Jeux Olympiques à tel endroit parce que sportivement, c'est intéressant.
L'économiste Vladimir Andreev, joint par Hélène Masquelier. Et pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux ce soir, Rio a promis d'offrir la plus grande fête du monde. Le secret est en tout cas bien gardé autour du dernier porteur de la flamme olympique, celui qui va allumer la vasque du Maracana. Et ce ne sera pas le roi Pelé, la légende du foot brésilien, qui était le favori des pronostics. Il a annoncé à la dernière minute qu'il ne participerait pas à la cérémonie pour des raisons de santé. En Turquie, les purges continuent 3 semaines après la tentative de coup d'État dans le pays. Le parti au pouvoir, l'AKP, qui chasse jusque dans ses propres rangs les sympathisants de Fethullah Gülen, l'ennemi du président Erdogan. Les précisions de Nabila Hamel.
Oui, virus, état parallèle, organisation terroriste, pas un jour sans que ces vocables ne soient employés par Recep Tayyip Erdogan pour justifier et encourager la purge actuelle dans toutes les strates de la société. Chaque école, chaque maison et chaque compagnie proche du réseau Gülen est un nid de terroristes. La Turquie est obligée de faire un nettoyage, expliquait-il hier encore. Et de fait, la suspicion généralisée n'épargne pas non plus, vous le disiez, son parti, l'AKP. Le parti à l'origine d'ailleurs de son ascension. Le numéro 2 de l'AKP a ordonné ce vendredi un nettoyage urgent dans les rangs du parti au pouvoir afin d'en éliminer les éléments gulenistes ou soupçonnés de l'être. C'est donc maintenant dans sa propre famille politique que le président Erdogan va sévir. Depuis le coup d'état manqué du 15 juillet, Ankara a confirmé que 26 000 personnes ont été placées en garde à vue. 13 400 sont en détention préventive, sans que l'on sache combien de temps cela peut durer. On ajoutera les 50 000 limogeages. Cette traque implacable a d'abord touché l'armée, puis les secteurs de la justice, de l'éducation, des médias et les milieux d'affaires. Elle va se poursuivre, si l'on en croit cette petite phrase prononcée hier par le président Erdogan. Ceux déjà arrêtés ne sont que le sommet de l'iceberg. Les autres restent à l'œuvre. Fin de citation.
En République centrafricaine, le fils de l'ancien président arrêté aujourd'hui, Jean-François Bozizé, qui était visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Il était rentré à Bangui depuis quelques jours, plus de 3 ans après avoir quitté le pays. La RCA qui est secouée par des violences communautaires depuis le renversement de son père en 2013. La fin de l'hégémonie de l'ANC en Afrique du Sud. On attend les tout derniers dépouillements des élections municipales dans le pays, notamment à Johannesburg et à Pretoria, la capitale. Mais les résultats sont presque complets et si l'ANC reste le premier parti dans le pays, les électeurs lui ont infligé un revers historique à 54% des voix, les pires résultats de l'ANC depuis 1994 et son accession au pouvoir. Le parti de Nelson Mandela qui a perdu Port Elizabeth, bastion historique de la lutte contre l'apartheid. L'ANC qui souffre notamment de la percée de l'EFF, un parti de gauche radicale. À Johannesburg, la correspondance de Lisa Fabian.
Les Sud-Africains sont allés voter pour le changement ce mercredi. 22 ans après la fin de l'apartheid, la frustration monte parmi la population, lassée par les scandales de corruption, la mauvaise qualité des services publics et le chômage endémique. Pour la première fois de son histoire, l'ANC perd du terrain dans le pays. Le parti majoritaire reste en tête au niveau national avec plus de 54% des suffrages, mais il enregistre plusieurs défaites historiques. Dans l'agglomération de Nelson Mandela Bay d'abord, l'ANC a dû admettre sa défaite dans la ville industrielle de Port Elizabeth à majorité noire, un ancien bastion de la lutte contre l'apartheid. À Johannesburg et Pretoria ensuite, puisque l'ANC est toujours au coude à coude ce soir avec l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition de centre-droit. Les résultats définitifs s'annoncent serrés et si aucun des deux partis n'emporte la mise, des alliances seront nécessaires pour gouverner ces grandes villes. Troisième force de ce scrutin, le parti Les Combattants de la liberté économique fait donc figure d'arbitre dans ces élections municipales. Cette formation de gauche radicale menée par le populiste Julius Malema prône l'expropriation des fermiers blancs et la nationalisation des mines. Au lendemain de ces élections municipales, le paysage politique apparaît donc profondément bouleversé en Afrique du Sud. Et si le futur est encore incertain, ces résultats sont bien la preuve de la maturité et de la vitalité de la jeune démocratie sud-africaine.
C'est l'été pour tout le monde demain en France. Temps chaud et ensoleillé sur l'ensemble du pays, malgré un vent soutenu sur le sud-est et des nuages le matin de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Les températures de 23 à 28 degrés en général du nord au sud et jusqu'à 33 autour de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia.